un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une histoire de hacker que j'ai personnellement hacké sur le site Topito qui propose un top 10 des 10 histoires de hacker qui devraient être adaptées au cinéma tellement elles sont ouf, je cite. Il s'appelle Higinio Okoa, c'est un hacker américain surnommé Wormer, ce qui veut dire quelque chose comme vermifuge. Il se lance dans le hacking dès son jeune âge, mais s'engage véritablement en politique au moment de l'apparition du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Il commence par hacker différents services de police et diffuse l'identité des agents ayant eu recours à des violences contre les manifestants. Puis il rejoint le collectif Cabin Crew et se lie aux Anonymous. Il monte d'un cran et infiltre ensuite la sacro-sainte base de données criminelle du FBI, où il siphonne un grand nombre d'informations. Il laisse alors sur cette base sa signature, qui n'est pas forcément du meilleur goût, comme une sorte de blague de potache. On y voit le décolleté d'une femme en bikini avec un message sur le ventre où il est écrit « Vous avez été niqué par Wormer et Cabin Crew, on vous aime, bande de putes ». Hélas, c'est cette photo précisément qu'il a empruntée à sa copine qui le mène à sa perte, car elle contient des métadonnées qui conduisent la police tout droit à la jeune femme, puis au vermifuge. Je me permets de m'étonner à ce point de l'histoire, car moi-même qui n'y connais rien, je sais que les photos contiennent des données. Alors comment un des plus grands hackers de l'histoire n'y a pas pensé? Il faudra que je demande à Xavier Delaporte. En attendant, Okoa est condamné à 18 mois de prison, mais reste dans l'histoire comme celui qui a eu l'arrestation la plus stupide. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, un autre activiste qui raconte comment il a aidé la révolution syrienne il y a plus de 10 ans, et un hacker blanc qui s'infiltre pour pratiquer des audits. Histoire de hacking, épisode 5, par Fabienne Lomonier, avec Olivier Minot.
Moi, à la base, j'ai commencé simplement par curiosité, simplement parce que j'aime bien comprendre comment fonctionne... Ça peut être un outil tout con comme une perceuse, comme un ordinateur, comme un vélo. Du coup, quand je comprends pas, bah, je démonte et je remonte. Et puis, généralement, j'ai compris. Mais du coup, au début, j'ai commencé sur l'informatique pure. Et puis après, je me suis un petit tourné vers comment fonctionnait Internet, tout cet immense domaine. J'ai vu mentionner plusieurs fois le réseau téléconique sur des sites. Sur les sites sur internet de presse où ils disaient qu'ils avaient fait ça pour dans tel pays, qu'ils avaient remis la communication en marche sur je ne sais quel autre pays. C'est avéré qu'à l'époque, il y avait la Tunisie, l'Égypte, il y avait des gens qui commençaient à se bouger pour la Syrie. En gros, il y avait un boulot qui a été fait pour permettre aux Syriens de pouvoir communiquer librement parce qu'ils avaient des gros serveurs qui bloquaient les communications, qui lisaient certains emails, qui accédaient à certains services comme Facebook ou Yahoo, enfin voilà, différentes choses qui n'étaient pas claires et notamment qui ne savaient pas. Du coup, il y a une grosse campagne au début où Telecomics a fait là-bas, qui était de sensibiliser les gens en faisant une grosse campagne massive d'emails qui était fait vraiment comme une campagne de spam où c'est on arrose tous les adresses en .si, en .sy, pour leur dire attention, quand vous allez sur tel service, vos emails sont écoutés, vraiment de la sensibilisation, et on leur proposait des outils. Et après, il y a aussi une action de reroutage en fait, de l'Internet. À chaque fois qu'un Syrien se connectait, sa page d'accueil, automatiquement, il y avait une page de Telecomics avec des outils à télécharger, une page écrite en arabe avec les éléments, ce qui était surveillé, qu'il fallait faire attention, qu'il ne fallait pas dire par email ou par téléphone où on se retrouvait, qu'on allait faire une manifestation, son prénom, son nom, qu'il ne fallait pas hésiter à utiliser des pseudos. Voilà, on a redirigé l'internet syrien pendant un instant. Ils étaient obligés de voir cette page.
L'État syrien, lui, il n'est pas arrivé à bloquer vraiment...
En fait, ils bloquent un accès, puis des agents télécomiques, ils trouvent un autre moyen de sortir. C'est vraiment le jeu du chat et la souris. C'est constamment de trouver la faille, quoi. Après, c'est aussi ça, qui est quelque chose qui m'a fait aller vers Telecomics, c'est que c'est toujours un défi technique. Je suis pas uniquement là parce que c'est les Syriens, et parce que, même si c'est la cause première, il y a aussi que c'est constamment un défi technique, et que c'est constamment Enfin, c'est presque un jeu de se battre contre l'État syrien, parce qu'on est complètement invisible, on est très loin d'eux, et on essaie juste de passer à travers les mailles du filet pour aider les gens à communiquer, quoi. Et cette page aussi incitait des Syriens à venir discuter avec nous sur nos salons de discussion. Notre démarche, nous, elle est informatique, donc les gens qui viennent, ils vont nous dire « j'arrive plus à me connecter à tel service, ici on n'a plus de courant, du coup tout le quartier est en blackout ». Enfin, voilà. Après, c'est ou c'est de l'information sur la situation, ou c'est des informations techniques que nous, on relaie. Parce que le but de Télécomics, c'est aussi de former les gens, et du coup, que les gens ensuite soient indépendants et qu'ils créent eux-mêmes leur hackerspace, par exemple, endroit où se trouvent les hackers. Du coup, le but, c'est de transmettre le savoir, qu'ils ne soient pas dépendants des gens qui sont venus les aider au début, quoi. Je suis déjà militant à la base en France, tout ce qui est lutte des sans-papiers, tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et pour lesquelles je me bats, quoi. Même au niveau du truc des lois sécuritaires, c'est des choses sur lesquelles je fais attention. C'est exactement comme les lois sur l'informatique, sur les serveurs, sur la rétention des données. Je fais aussi très attention à ce qui est voté en France. Et voilà. Enfin...
France Culture. Les pieds sur terre.
Alors, je m'appelle Kevin, alias Kit, mon pseudo. J'ai 25 ans, je travaille chez Synactive. Depuis maintenant 2 ans. Je suis pentester, c'est un alias pour auditeur cybersécurité. Au jour le jour, je réalise des audits de différents types. Donc on peut auditer des sites web, du code source, des architectures, un peu de tout au final. Il y a à peu près maintenant 1 an, il y a une banque colombienne qui nous a contactés pour réaliser un audit de type Red Team. Alors le Red Team, c'est un type de mission qui est très réaliste et qui va se rapprocher de ce que on va voir dans des films, de l'imaginaire qu'on se fait un peu du hacker. C'est beaucoup plus sexy qu'un audit de configuration ou ce genre de choses, puisqu'on se met réellement dans la peau d'un hacker. Il y a une certaine tension avec le fait de pas se faire repérer pendant l'audit et tout un tas de choses qui viennent de rajouter de l'adrénaline à cet exercice. Et on va utiliser toutes les techniques à notre disposition, que ce soit l'intrusion physique, l'envoi de mails de phishing, les attaques informatiques plus traditionnelles, pour parvenir à atteindre nos objectifs, donc qui sont des trophées fixés par l'entreprise qui nous paye. Ce qui nous stimule, c'est le défi technique, d'une part, parce que c'est quand même extrêmement complexe. D'une part, ces audits sont complexes habituellement sans la partie discrétion. Et rajouter l'aspect discrétion en plus, donc faire attention à tout ce qu'on va faire, c'est vraiment extrêmement difficile et challengeant. Dans le cas ici de cette mission, le trophée, c'était faire un virement. Simplement un virement à partir du nom de la banque qui se trouve en Colombie. Donc nous, on représente, mes collègues et moi, la Red Team. Mais en face, il y a une autre équipe qui s'appelle la Blue Team. Et donc la Blue Team, elle est en charge de protéger la banque des attaques des pirates. La Blue Team, elle n'est pas au courant de l'exercice. Notre but, c'est de ne pas se faire attraper par la Blue Team. Dans un premier temps, avant de se rendre sur place en Colombie, parce qu'il nous indique qu'en fait il y a des agences et des locaux physiques à aller auditer au cours de la mission, avant de s'y rendre, on va chercher un maximum de ressources sur Internet, tout ce qui va concerner en fait la banque, le nom des employés, leurs postes, leurs adresses e-mail, les filiales de la banque, tout ce qui se rapproche de près ou de loin de la banque, pour qu'on puisse ensuite trouver des sites web qui appartiennent à la banque pour ensuite l'attaquer. Au moment où on fait cette phase de reconnaissance, on tombe sur un site internet qui présente une vulnérabilité qui nous a permis de récupérer des identifiants d'employés qui nous ont ensuite permis de nous connecter à un portail qui permet d'accéder à leurs emails, à leurs documents en interne, à tout un tas de choses qui vont nous être super utiles par la suite et dont un particulièrement intéressant qui est le mode d'emploi du VPN. Pour rappel, le VPN, c'est un outil qui permet aux employés des entreprises, de se connecter à distance au réseau interne de l'entreprise. Alors c'est très utilisé aujourd'hui depuis le Covid parce qu'il y a, beaucoup de monde qui fait du télétravail. Et donc on trouve ce mode d'emploi, on se connecte avec les identifiants qu'on a récupérés précédemment des employés. Et donc là, on a un premier pas dans le réseau interne de la banque. Jusque-là, la Blue Team n'est toujours pas après nous et on est toujours à Paris à ce moment-là. Au bout d'environ 3 semaines, on arrive à se faufiler dans le réseau en exploitant un certain nombre de vulnérabilités et on se connecte pour la première fois sur un des serveurs bancaires. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que accéder au serveur, c'est bien. Savoir comment l'utiliser, ça, c'est une autre question. Nous, on n'est pas des pros de la finance. On ne sait pas utiliser ces logiciels. Donc on a décidé de mettre en pause cette partie-là et de se diriger vers Roissy-Charles de Gaulle pour prendre l'avion et se rendre en Colombie. Donc là, je pars avec mon collègue Pierre. Mon collègue, il a un an de plus que moi, donc il a 26 ans. On prend l'avion un vendredi. On arrive à Bogota. Je suis malade parce que Bogota, c'est à 2600 mètres d'altitude. Et à ce moment-là, j'ai le mal des montagnes. Donc je passe le week-end à moitié en train de visiter la ville et à moitié dans mon lit. Le lundi matin, ça va un peu mieux. Et là, on commence par faire une première phase de reconnaissance. On se rend dans les différents lieux qu'on va devoir auditer pour faire un repérage. Donc on va regarder les caméras de surveillance, où elles sont placées, est-ce qu'il y a des gardes, est-ce qu'il n'y a pas une porte ou une entrée qui est un peu moins surveillée qu'une autre, qu'est-ce qu'ils utilisent comme type de sécurité, ce genre de choses. Il y a pas mal de pression, alors on se dit il n'y a pas de pression à avoir, puisque de toute façon on fait ça dans le cadre de la loi, c'est le client nous mandate pour le faire en fait, on risque rien en théorie. Et pourtant, on a quand même peur de se faire attraper, de faire planter la mission, quoi. À ce moment-là, premier bâtiment qu'on fait, c'est une grande tour de bureaux dans lesquelles se trouve la banque. Notre premier réflexe, c'est de se rediriger vers le parking, parce qu'en général, c'est un endroit qui est un peu moins surveillé. Et dans le parking, on repère une entrée avec un lecteur de badge, pas de garde de sécurité. Et là, on se dit, ça va sûrement être le point d'entrée pour la banque. Bon, on aime bien les James Bond, on aime bien ce genre de choses. Et puis, il y a un côté challengeant à essayer de pirater le système de badge. Donc, on est rentré à l'hôtel. Et là, on s'installe dans la chambre d'hôtel. Et pendant près de 10 heures, on passe notre temps à éplucher des documents. On est sur le point d'abandonner et on trouve la mention d'un nom sur un document qui dit telle personne est en charge de la gestion des badges. Donc à ce moment-là, on va pirater son compte, on récupère ses identifiants puisqu'on est déjà administrateur sur toute la banque. Donc on récupère son mot de passe et puis on se connecte sur son espace pro. On inscrit nos deux téléphones dessus et en fait ce qu'on fait c'est que sur le site web on va réinitialiser les identifiants de la personne qui gère les badges. On fait bien attention avant de rajouter un filtre sur ses mails pour pas qu'elle reçoive un mail lui disant « Ah, votre mot de passe a été réinitialisé » et on réinitialise son mot de passe pour se connecter. Donc ça, c'est des techniques qu'on utilise souvent dans ce genre d'audit pour justement récupérer des comptes et éviter que la personne soit alertée. Donc le lendemain matin, on se dirige donc vers la tour qu'on a visitée la veille. On se dirige vers le parking, on sort nos téléphones, on a le cœur qui palpite, on est un peu stressé et là le bip salvateur retentit et la porte s'ouvre. Et alors là à ce moment-là on est sans voix avec mon collègue, enfin on se regarde droit dans les yeux pendant peut-être une vingtaine de secondes en se disant on l'a fait. Donc on rentre dans le bâtiment. On prend l'ascenseur avec d'autres employés et puis on se dirige vers l'étage dit VIP, donc là où se trouve la direction de la banque. On se retrouve face au bureau du directeur, puis on se met à la machine à café et on décide ensuite de se diriger vers des bureaux où il y a des employés qui sont en train de travailler. dans un des recoins du bureau, qui n'est pas forcément visible depuis le reste de l'open space, on va brancher un implant sous le bureau en coupure avec l'ordinateur qui est déjà présent. Donc c'est totalement indétectable pour la Blue Team à ce moment-là. Et ça nous donne accès à distance à tous nos collègues qui sont à Paris à ce moment-là et qui peuvent prendre le contrôle du petit implant et continuer l'intrusion au cas où on nous coupe l'accès depuis Internet. Donc on reste là pendant 10-15 minutes, personne ne nous suspecte. Et puis on se dirige vers la sortie. On sort même par l'entrée principale à ce moment-là, par les tourniquets de l'entrée principale, puisqu'on sait que les lecteurs de badge fonctionnent, donc on est super contents. Le midi, on avait prévu de déjeuner avec le client, notre contact. On lui explique ça. Le client est complètement fou. Il est complètement bluffé à ce moment-là. Et puis il en parle à d'autres collègues qui sont présents au déjeuner, qui font partie de son équipe et qui sont donc les seuls qui sont au courant dans la banque de cet exercice. Et le lendemain matin, on prévoit de se rendre donc dans une autre agence. Et en se levant, je vois sur mon téléphone que les accès ont disparu, que j'ai plus accès avec mon téléphone au badge de la banque. Et je demande à mon collègue au petit déjeuner, je dis « Pierre, mais toi aussi t'as perdu l'accès ?» Et il me fait « Bah ouais, moi aussi ». Donc on contacte notre client, on lui dit « Bah c'est bizarre, on comprend pas, on a perdu l'accès ». Il fait « Ah mince, j'en ai parlé à telle personne ». Et puis il a dû en parler à la Blue Team. Donc à ce moment-là, la Blue Team a été au courant et ils ont décidé de couper tous les accès au badge. Donc ça fait partie aussi des aléas de ce type de mission, c'est que parfois il y a des fuites et ça peut compromettre la faisabilité de la mission. Ils sont pas au courant de tout, juste des badges, donc on peut plus compter sur les lecteurs de badges à ce moment-là. C'est dommage, mais on a déjà fait ce qu'il fallait, donc à la limite, tant pis. Donc, le lendemain, on a une autre agence à visiter. Et avant de partir, on envoie un mail à la directrice de cette agence avec l'adresse email du chef de la sécurité nationale de la banque, en lui disant qu'aujourd'hui, il y a deux auditeurs français qui vont passer dans son agence pour réaliser un audit de sécurité sur les serveurs et de bien vouloir accéder à leurs demandes et les laisser rentrer. Donc bien évidemment, on rajoute un filtre sur la directrice de l'agence au cas où elle réponde que son mail tombe dans la poubelle. On se présente à l'agence et on va voir la directrice en lui expliquant qu'on est là pour faire des tests, qu'elle a sûrement reçu un email de la part du grand chef qui lui dit de nous laisser accéder à la salle serveur. Et donc là, il faut avoir une version raccord, une version logique, ne pas être stressé parce que on est dedans. Du coup, il faut rester impassible et faire un espèce d'exercice de yoga dans sa tête sans paraître trop bizarre en face de la personne, de la directrice de l'agence, là, en l'occurrence. Et là, elle nous dit « Ok, pas de souci, suivez-moi ». Et elle tape un code en nous demandant de nous retourner. Et là, on accède à la salle serveur. Donc elle nous laisse dedans et elle nous dit « Faites ce que vous avez à faire et quand vous avez terminé, vous me dites et puis je referme la pièce, quoi. » Et un petit détail intéressant, c'est que quand on a envoyé le mail, on a mis dans la signature du mail, vous savez, il y a toujours le nom, prénom, le poste, le numéro de téléphone. Et on a remplacé le numéro de téléphone par le mien, donc avec un numéro en Colombie. Et peut-être une ou deux minutes après qu'on soit dans la salle serveur, je reçois un appel d'un numéro colombien. Et là, je me dis, il n'y a qu'une seule personne qui connaît ce numéro aujourd'hui, c'est la directrice de l'agence. Je ne peux pas répondre à ce moment-là, bien évidemment. Donc je lui envoie un SMS en lui disant « Quel est le souci ? Que veux-tu savoir ?» Elle pense que c'est le directeur de la sécurité qui lui répond. Je réponds en espagnol. Alors j'ai quelques notions en espagnol, mais je ne suis clairement pas bilingue. Donc Google Traduction est notre ami à ce moment-là. Et pas de réponse de sa part. On se dit « Bon, elle a peut-être juste lâché l'affaire ». Donc on est dans la salle serveur, on a le cœur qui palpite puisqu'il y a tous les employés qui passent autour. On se dit, faut espérer qu'elle ne se rende pas compte de la supercherie trop vite. Et puis, il y a mon collègue qui demande à accéder aux caisses automatiques. À ce moment-là, il y a donc un employé qui lui répond qu'elle n'est pas disponible et qu'elle va revenir d'ici quelques minutes pour voir avec nous. Là, à ce moment-là, il y a peu d'employés qui passent dans le couloir. On trouve ça un peu étrange. On se dit bon, que c'est sûrement rien et puis on continue comme si de rien n'était. 5 minutes après, il y a 2 policiers qui débarquent dans la salle serveur. L'un avec la main sur l'étui, qui nous demande qu'est-ce qu'on fait là. Et donc on sort tout de suite ce qu'on appelle la carte sortie de prison. C'est une lettre qui explique pourquoi on est là et les personnes à contacter au sein de la banque pour qu'on puisse vérifier nos dires. Et on leur donne la lettre, ils fouillent nos sacs. Ça dure pendant bien une heure et demie où ils nous gardent dans la salle serveur. Et là on se dit, oh là là, on est dans quelle histoire là ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi ils ne contactent pas les personnes sur la fiche ? Les policiers là-bas, ils ne parlent pas du tout anglais. Donc, faut négocier avec eux en espagnol directement. Et déjà que c'est souvent compliqué d'expliquer ça en français, ce qu'on vient faire, le quiproquo de la situation, en espagnol, c'est impossible. Et on les embrouille plus qu'autre chose. Ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Bizarrement, ils sont très détendus. Je pense que... Pour leur avoir posé la question, on leur dit « Mais vous avez déjà été appelé pour des choses comme ça ?» Et ils nous disent « Non, pas du tout. » Ils disent « En général, c'est plutôt pour des fusillades ou ce genre de choses. » Ils disaient « Policiers à Bogota, on se fait tirer dessus tous les jours. » Donc, en gros, votre histoire, nous, franchement, c'est une balade de santé. Voilà. En fait, ils nous ont plutôt mis en confiance. Ils nous laissent avec nos téléphones donc, pour que chacun voit comment débloquer la situation. Sachant qu'en France, à ce moment-là, il est peut-être minuit, 1h du matin. Donc une heure passe, toujours rien. Et à ce moment-là, on envoie un message directement à notre contact, qu'on n'arrivait pas à joindre jusque-là. Il contacte les personnes qu'il faut. Là, débarque un homme avec 2 sucettes à la main, qui nous tend. Il nous sort une blague, alors en espagnol. Je sais pas, ça devait être drôle, puisque tout le monde a rigolé autour. Il nous rend nos PC. Et il nous dit votre contact, il va arriver, il n'y a pas de souci, soyez détendus. Les policiers, à ce moment-là, ils nous disent nous, on va y aller. Et on leur demande, à ce moment-là, une petite photo souvenir. Ils nous passent les menottes juste pour la photo. Et on l'envoie donc aux collègues qui, ça fait le buzz dans la boîte à ce moment-là. La situation est dénouée, notre contact arrive, il nous prend dans la voiture, nous ramène au siège et globalement nous dit voilà, bon, c'est réglé, pas de souci, vous pouvez y aller, continuer la mission comme prévu, aucun problème. Donc là, la question numéro 1, c'est qu'est-ce qui nous a trahis ? C'est la directrice de l'agence. En fait, elle a reçu ce texto. Et c'était peut-être déjà trop tard, parce qu'elle avait contacté son supérieur à elle, donc l'homme aux sucettes, qui est le directeur de la région de Bogota, le directeur de la sécurité de la région de Bogota, qui se trouve finalement entre la directrice de l'agence et le chef de la sécurité nationale au niveau des responsabilités, qui était le commanditaire, voilà, lui au courant de l'exercice, le chef de la sécurité nationale. Pas le chef de Bogota, puisque au final, c'est lui qui se fait auditer, réellement dans cet exercice. Et donc cet homme, elle essaie de le contacter. En n'arrivant pas à contacter le chef de la sécurité nationale, elle se dit « Bon, bah, je vais contacter mon supérieur direct qui, lui, est peut-être au courant de cet exercice. » Et elle le contacte en lui disant « Bon, écoute, j'ai reçu un mail du chef de la sécurité nationale qui m'informe qu'il y avait 2 auditeurs. Ils se sont présentés. Je leur ai donné accès à la salle serveur. » Et puis voilà, juste pour te tenir au courant de l'exercice, est-ce que t'en sais plus ? Et à ce moment-là, lui répond « Ah non, pas du tout. Je suis pas au courant de cet exercice. Et attends, tu me dis que c'est le chef de la sécurité nationale qui t'a envoyé ça ? Mais c'est absolument impossible, parce que en ce moment même, il est en train de se faire opérer à l'hôpital. » Et là, manque de chance, ils nous ont grillé là-dessus. Et donc le chef de la sécurité nationale a pensé que c'était un braquage, une prise d'otage. Donc il a ordonné l'évacuation de toutes les personnes présentes dans l'agence. Et c'est lui qui a appelé la police. parfois, même si on pense tout maîtriser, même si on pense qu'il n'y a pas de souci, bah, la chance ou la malchance vont beaucoup jouer dans ce genre de situation, dans ce type d'audit. Et dans un sens ou dans l'autre, voilà, faut en être au courant. Donc le trophée, on a fini par l'avoir. Donc on a réussi à faire le virement après être rentré de Colombie. Donc de ce côté-là, réussi. Sur les agences, on en avait donc 6 au total. Là, il y a juste eu l'exemple d'une agence, mais sur les 6, on a eu à peu près 50% de taux de réussite. On a fait 5 autres agences après, dans plusieurs villes en Colombie. En réalité, on rentrait dans les locaux et on faisait semblant de faire des choses sur ordinateur. Et le but, c'était juste de rentrer dans les locaux et de ressortir. On sent qu'on a du pouvoir, mais il faut pas oublier que faut rester dans le cadre de la loi, que quand on va dérober de l'argent ou qu'on va pouvoir faire ci ou ça sur un système informatique, derrière, il y a des gens qui peuvent être impactés directement. Et donc ça, c'est aussi notre devoir et c'est aussi une obligation de ne pas se laisser avoir et de se faire monter à la tête par toutes les choses qu'on peut faire et se dire « Ah bah tiens, je le ferais bien en réalité dans mon coin ». J'ai pas envie de finir ma vie derrière les barreaux, d'une part, et puis d'autre part, le cœur du métier, c'est l'éthique derrière, de se dire qu'on est là pour faire le bien et pas pour faire le mal. Faut remettre en perspective, est-ce que je suis prêt à gâcher ma vie et celle des autres pour gagner des millions ?
C'était Histoire de hacking, 5e épisode, la révolution syrienne et l'audit en Colombie. Un reportage de Fabienne Lomoni avec Olivier Minot, réalisé par Vincent Abouchard. Merci à Synachiv, à Renaud Fay, à son fondateur et CEO, à Kevin Tellier, à Antoine Servoise pour leur témoignage et à Véronique Loquet pour son travail et sa confiance, me dit-on, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. So it's letting you down.